Imaginez un homme que Victor Hugo, rien que ça, surnomme l'Homère des insectes. Un scientifique, bien sûr, mais aussi un poète, un musicien, un peintre, un véritable touche-à-tout de génie, issu de la terre rude de l'Aveyron.
Et pour partir à sa découverte, notre matériau de base aujourd'hui est assez spécial. On plonge dans le bulletin d'un club de collectionneurs de cartes postales, le Carte Club Aveyronnais.
Ah oui, c'est original comme source.
Très. Ce numéro, publié en 2015, marque le centenaire de la mort de Jean-Henri Fabre. Ce n'est donc pas une biographie académique, mais un regard de passionné, vraiment ancré dans l'histoire locale.
C'est ça qui est formidable. On va suivre le fil du récit principal de Guy Mazars, qui a vraiment fait un travail de fond pour nous raconter la vie de Fabre. Mais il n'y a pas que ça.
Non, on a aussi des angles plus pointus. Un article de Gilbert Regour sur la philatélie Les Timbres, donc, et même un autre de Francis Falguière, qui nous emmène dans un hameau méconnu, Montmaton.
Notre exploration aujourd'hui, c'est donc de reconstituer le puzzle de ce personnage hors norme, de ses débuts très modestes à sa reconnaissance mondiale. Tardive.
Exactement. Mais en le voyant à travers les yeux de ceux qui chérissent et préservent la mémoire de leur territoire. C'est un portrait beaucoup plus intime vu de l'intérieur.
Alors, commençons par le début. Guy Mazars, dans son article, nous présente Fabre comme un paradoxe vivant. D'un côté, c'est un pionnier de ce qu'on appelle l'éthologie, la science du comportement animal.
Oui.
On l'imagine des heures, le nez dans la poussière, à observer la vie des insectes.
Exactement, un homme de terrain. Et ça, à son époque, c'est presque une anomalie. Les autres entomologistes, les scientifiques sérieux, travaillent en blouse blanche dans des laboratoires.
Sur des insectes morts épinglés dans des boîtes.
Voilà. Pour eux, Fabre qui passe son temps dehors et qui en plus écrit sur ses découvertes dans un style très, très littéraire, presque poétique, c'est un amateur. Le bulletin dit même que c'était vu comme un crime de lèse-science.
Un crime de lèse-science. C'est fort comme expression. Et pourtant, le type était loin d'être un ignorant. Physicien, chimiste, botaniste.
Ah non, c'était un esprit universel. Le détail le plus révélateur, c'est qu'il a été proposé pour le prix Nobel de littérature, pas de science.
Incroyable. Ça en dit long sur la façon dont son travail était perçu.
Et Guy Mazars pose des questions qui va nous guider. D'où vient ce génie? Qu'est-ce qui a forgé un tel esprit? Il liste 7 lieux clés dans sa vie, de Saint-Léonce en Aveyron jusqu'à Sérignan. C'est ce parcours, cette sorte de voyage immobile qu'on va suivre pour comprendre.
Allons-y. Première étape, Saint-Léon, son village natal. L'étincelle, elle vient de là.
Totalement. Deux moments fondateurs. Le premier, c'est une rencontre. Enfant, alors qu'il garde les canetons près d'une mare, il trouve un scarabée d'un bleu ineffable.
Un bleu ineffable.
C'est le mot qu'il emploie, un trésor. Son père, très pragmatique, lui ordonne de jeter ses saletés. Il obéit, mais la source précise, l'impression demeure. La vocation de naturaliste est née à ce moment-là.
Et la deuxième étincelle, c'était quoi?
C'est un mot, un simple mot. Un jour, le vicaire du village désigne un oiseau en le qualifiant de saxicole.
Saxicole, c'est-à-dire?
Qui vit dans les rochers. Pour le jeune Fabre, ce terme savant, précis, c'est une révélation. Il découvre la magie des mots, le pouvoir de nommer le monde avec exactitude. Sa vocation d'écrivain vient de naître, juste à côté de celle de scientifique.
C'est fou. Tout part d'un scarabée et d'un mot. Après, il y a Rodez, le collège, mais la famille est trop pauvre, il doit partir. Le vrai tournant de sa carrière, il a lieu plus tard, et plus au sud.
Oui, à 19 ans, il est instituteur à Carpentras. Déjà, il est à contre-courant, il fait classe en plein air aux grandes dames de ses collègues.
Déjà.
Mais le choc, la véritable bifurcation, c'est en Corse, à Ajaccio. Il y rencontre un zoologiste, Moquin Tandon.
Et que se passe-t-il?
Moquin Tandon veut lui montrer la beauté de l'anatomie. Pour faire une dissection d'escargot, n'ayant pas ses outils, il improvise. Il prend des aiguilles à tricoter dans la corbeille à ouvrage de l'épouse de Fabre.
Attendez, des aiguilles à tricoter, hein? Pour une dissection scientifique.
C'est la débrouille la plus géniale que j'ai jamais entendue.
Et pour Fabre, c'est déclic. Il comprend que la science peut se faire avec trois fois rien, juste avec de l'ingéniosité et de la curiosité. C'est là qu'il décide de se consacrer corps et âme à la zoologie.
La suite de son parcours le mène à Avignon, où il reste près de 20 ans. C'est une période de galères financières avec une famille nombreuse à nourrir.
Oui, mais aussi une période de rencontres. Pour le meilleur et pour le pire, l'anecdote avec Louis Pasteur est absolument édifiante.
Ah oui, racontez. Pasteur est dans la région pour enquêter sur la pébrine, une maladie qui décime les élevages de vers à soie. Il rend visite à Fabre, le spécialiste local des insectes. Sauf que Pasteur, le grand savant, n'y connaît absolument rien.
Rien de rien ?
Rien. Il prend une chrysalide, la secoue près de son oreille et, surpris, demande « Cela sonne, il y a quelque chose là-dedans. »
Non, c'est une blague.
On parle de Louis Pasteur, l'un des plus grands scientifiques de tous les temps.
Fabre est abasourdi par cette ignorance. Ça montre le fossé immense entre la science de laboratoire, déconnectée du vivant, et son approche à lui, celle de l'observation directe. Et ce n'est pas fini.
Ah bon ?
Non. Pasteur, obsédé par ses travaux sur le vin, demande à voir la cave de Fabre. Fabre, qui est pauvre, lui montre juste une dame Jeanne dans un coin de sa cuisine. Il a ressenti un mépris terrible de la part du grand homme parisien. Ça a dû être une blessure profonde, mais c'est aussi à Avignon qu'il commence à avoir des ennuis, non ?
De sérieux ennuis, oui. Le ministre de l'Instruction publique, Victor Duruy, l'encourage à donner des cours du soir pour adultes. Fabre s'exécute, mais il commet un crime impardonnable pour l'époque. Ses cours sont mixtes.
Hommes et femmes ensemble.
Et pire encore, il ose y parler de la reproduction des fleurs, de la pollinisation. Les milieux cléricaux crient au scandale, le dénoncent comme un esprit subversif. La pression est telle qu'il est contraint de quitter Avignon.
En gros, il se fait annuler avant l'heure pour avoir enseigné la botanique à des femmes. C'est fou.
C'est cet exil forcé qui, paradoxalement, va lui permettre de réaliser le rêve de sa vie. Après un bref passage à Orange, il s'installe à Sérignan-du-Comtat et achète un lopin de terre aride, une friche qu'il baptise l'Armasse.
L'Armasse, c'est un mot qui revient tout le temps quand on parle de lui. Qu'est-ce que ça signifie en fait ?
En provençal, Armasse signifie justement friche, terre en friche. Et c'est exactement ce qu'il voulait. Il le décrit lui-même, un coin de terre abandonné, stérile, brûlé par le soleil, favorable aux chardons et aux hyménoptères.
Ce n'était pas une maison de campagne, c'était son laboratoire à ciel ouvert.
Voilà. Et c'est là, dans ce laboratoire naturel, qu'il va faire une de ses découvertes les plus spectaculaires, à propos d'un papillon de nuit, le grand paon.
Racontez-nous ça.
Un soir de mai, une femelle grand paon de nuit, le plus grand papillon d'Europe, éclos dans son bureau. Il la place sous une cloche en grillage. Et le soir venu, c'est l'invasion. Son fils l'appelle paniqué. « Viens voir ces papillons, gros comme des oiseaux. La chambre en est pleine. »
La chambre en est pleine ?
Plus de 40 mâles sont entrés dans la maison et tourbillonnent frénétiquement autour de la cage de la femelle.
40 mâles ? Mais d'où venaient-ils ? Comment l'ont-ils trouvé ?
C'est la question que Fabre se pose. Il se transforme alors en véritable détective. Pendant des jours, il mène des expériences. Il cache la femelle, il utilise de la naphtaline pour brouiller des pistes, il va même jusqu'à couper les antennes de certains mâles.
Et sa conclusion ?
Elle est formelle. Ils sont guidés par l'odorat, par des effluves chimiques imperceptibles pour nous, émis par la femelle.
Et en fait, sans même avoir le mot pour le dire, il vient de découvrir le principe des phéromones.
Exactement. 60 ans avant que la science n'isole chimiquement la première de ces substances. C'est l'ADN de sa méthode. Observation, émerveillement, puis expérimentation rigoureuse. Et le tout raconté comme une épopée épique dans ses fameux souvenirs entomologiques.
Le bulletin du Cartoclub a une formule géniale pour décrire cette œuvre. Il parle d'une Iliade et d'une Odyssée. Ce n'est donc pas un manuel de science rébarbatif.
Ah non, c'est une épopée. Une Iliade d'abord, avec ses combats de héros. Fabre met en scène des duels entre une mante revisieuse et un scorpion, ou observe les techniques de chasse de l'araignée Lycos. Il décrit leurs armes avec une précision incroyable.
La dague empoisonnée de la guêpe, les crochets venimeux de l'araignée.
C'est ça. C'est un champ de bataille sous ses yeux. Et il en est le chroniqueur passionné.
Et l'Odyssée.
C'est le récit de leur voyage, de leurs incroyables capacités d'orientation pour retrouver leur nid, des périples dignes d'Ulysse. Et bien sûr, c'est aussi le récit de leurs amours, parfois tragiques, comme le fameux cas de la mante religieuse qui dévore son partenaire.
Il transforme la science en histoire inoubliable.
Voilà. Et le bulletin nous rappelle qu'il n'était pas juste un écrivain naturaliste. Il avait d'autres cordes à son arc.
Oh que oui ! Il était un peintre remarquable.
On a conservé plus de 600 de ses aquarelles de champignons, d'une précision scientifique bluffante. Il était aussi poète, en français, en provençal, au point d'être reconnu par ses pairs. Et musicien, À plus de 65 ans, il s'est mis à composer de la musique pour ses propres poèmes.
Sur son harmonium, c'est ça ?
Un artiste total.
Un artiste total, oui. Et toute cette œuvre, menée dans un quasi-isolement, a fini par être reconnue, mais très tardivement, si je comprends bien.
Très tard. Son jubilé n'est organisé qu'en 1910, il a 87 ans. En 1913, le président de la République, Raymond Poincaré, fait le déplacement jusqu'à l'Armas. C'est un événement national.
Et lui, comment il le vit ?
Il est un peu dépassé. Il confie qu'il a l'impression d'être devenu un animal rare, une bête curieuse qu'on vient observer dans sa cage.
C'est une fin de vie assez ironique. Et après sa mort, sa mémoire est honorée, notamment par des statues. Et l'histoire de ces statues, racontée dans le bulletin, est un roman à elle toute seule.
C'est une histoire incroyable. Deux statues en bronze identiques sont érigées, une à Millau et une à Saint-Léonce. Arrive la Seconde Guerre mondiale. L'occupant réquisitionne les métaux.
Et donc les statues ?
Marchandises, direction l'Allemagne pour y être fondues.
Et c'est là que ça devient fou.
Le wagon est intercepté par un groupe de résistants sud. Le chef de gare, complice, prévient le maire de Millau avec une lettre qui est un pur chef-d'œuvre d'humour et de courage.
Qu'est-ce qu'elle dit, cette lettre ?
Je cite un extrait, c'est trop beau. « Monsieur le maire, un de vos concitoyens, monsieur Jean-Henri Fabre, n'a pas hésité, malgré son grand âge, à entreprendre un voyage qui aurait pu lui être funeste. Nous avons pu le descendre du train et l'hospitaliser dans une station climatique où le bon air aura tôt fait de le remettre sur pied. »
Non.
Et il termine, « Nous avons pu le décider à rester parmi nous jusqu'à la libération de notre territoire. »
C'est absolument génial. Transformer le vol d'une statue en une mission de sauvetage. L'esprit de la résistance dans toute sa splendeur. La statue a donc été sauvée.
Sauvée et remise sur son socle après la guerre. Mais son héritage se mesure aussi de façon plus discrète. L'article de Gilbert Régourd nous parle de philatélie. Il a eu droit à plusieurs timbres.
Et Régourd explique ce qu'est une carte maximum. C'est un concept de collectionneur qui réunit trois éléments. Une carte postale, un timbre en lien avec l'image et un cachet du lieu et du jour de l'émission.
C'est le Graal du collectionneur. Et ce qui est frappant, c'est sa renommée internationale. Un entier postal russe en 1973 et surtout une immense popularité au Japon. Ses souvenirs entomologiques sont au programme scolaire là-bas.
C'est vrai.
Oui. Des bus de touristes japonais font le pèlerinage jusqu'à Saint-Léonce.
C'est fou de voir jusque son influence s'étend. Mais ce qui est passionnant avec notre source, ce bulletin du Cartoclub, c'est qu'il ne s'arrête pas là. Après Fabre, ils font un virage à 180 degrés.
C'est un choix éditorial très fort de Gilbert Régourd, le président du club. Dans son édito, il fait le lien. Il dit en substance « Si tout le monde connaît Saint-Léonce grâce à Fabre, l'article suivant, de Francis Falguiers, a pour but de faire connaître un autre lieu, le hameau de Montmaton. »
On passe de la lumière d'une célébrité à l'ombre d'un village oublié.
C'est ça. Et cet article sur Montmaton, il nous plonge dans la vie quotidienne du début du XXe siècle, à travers les cartes postales. On ne parle plus d'un grand homme, mais de la vie des gens ordinaires.
On y voit quoi ?
Les travaux des champs, le dépiquage avec la batteuse à vapeur, des traditions locales comme la bouade, une corvée de bois pour le curé. On voit même les conscrits de 1912 posés fièrement sans savoir que la Grande Guerre allait en emporter beaucoup.
C'est poignant.
Très. Et on apprend que la plupart de ces photos ont été prises par le curé du village, l'abbé Hatcher. C'était le photographe de sa communauté. Ce segment sur Montmaton, ce n'est pas une digression.
Non, ça révèle la mission profonde du Cartoclub.
Exactement, oui. Célébrer les grands personnages comme Fabre, mais aussi et surtout sauver de l'oubli la mémoire fragile des lieux modestes et des vies anonymes.
C'est une démarche magnifique. On a la grande histoire et la petite histoire qui se répondent. On revient donc à Fabre, cet homme qui, comme le dit si bien le bulletin, était un voyageur immobile, pendant que Darwin faisait le tour du monde.
Et lui, il trouvait l'univers dans son jardin. Son véritable voyage a été intérieur, un voyage dans l'infiniment petit. Et ça nous laisse avec une question, je trouve.
Laquelle ?
À notre époque, on est obsédé par l'exploration spatiale, l'analyse de masse de données gigantesques, le big data. On cherche des réponses toujours plus loin, toujours plus grand. Quelle place reste-t-il pour la méthode Fabre ?
Cette observation patiente, profonde, presque amoureuse de ce qui est juste sous nos yeux.
C'est ça.
C'est une excellente question. Qu'est-ce qu'on pourrait découvrir si on prenait le temps de vraiment regarder notre propre Armas, notre propre petit coin du monde ? Peut-être que les plus grandes aventures sont juste là, à portée de main, et qu'il suffit de savoir s'arrêter pour les voir.